rapport au témoignage. On va prendre quelques minutes, après ça, ils vont avoir lieu les baptêmes. Et j'aimerais souligner deux éléments. Il y avait plein de choses. Moi, j'ai eu le privilège de lire les témoignages cette semaine, la semaine dernière. Puis, honnêtement, à un certain moment donné, je me suis arrêté, je me suis mis à brailler, puis juste dire, Seigneur, t'es incroyable. T'es incroyable de venir comme ça dans l'histoire de vie de personne, des histoires personnelles. C'est ça que j'aime des témoignages, c'est que la notion de Dieu, l'idée de Dieu, ce Dieu invisible qui peut être extrêmement théorique, devient beaucoup plus concret lorsqu'on voit comment est-ce qu'il est intervenu, comment est-ce qu'il est entré dans l'histoire personnelle d'individu. Là, ça devient concret, là, ça devient tangible. Puis j'étais juste touché, j'étais juste bouleversé, je me suis arrêté, puis j'ai dit, « Wow, Seigneur! » Fais encore ça aujourd'hui comme tu l'as fait dans ma propre vie. Mais j'aimerais ça souligner deux choses ce matin. Je tiens à mentionner quelque chose, d'accord? Il y a des gens ici qui, la majorité d'entre vous, vous êtes chrétiens, vous avez déjà été baptisés, vous étiez là, puis vous voyez comment est-ce que Dieu travaille dans la vie de ces gens-là, puis on trouve ça sympathique, on se met à rire, tout ça. Moi, je suis convaincu qu'il y a des gens dans la salle ici ce matin qui ont été troublés par plusieurs choses qui ont été dites dans ces témoignages-là. Et je voudrais juste en souligner une qui, moi, m'a affecté lorsque je l'ai lue. Ça m'a troublé, puis honnêtement, c'est venu me chercher. Élisabeth a dit à un moment donné, puis elle a insisté là-dessus dans son témoignage. Elle a dit, je n'avais pas la force pour laisser mon copain afin de me donner entièrement à Dieu, car je l'aimais beaucoup. Je me sentais prise en sandwich entre lui et Dieu. Et honnêtement, ça m'a troublé. J'ai trouvé ça intense. Et Rodrigo l'a dit, choisir entre Dieu et un homme. J'ai trouvé ça intense. Je comprends d'où ça vient, tout ça, mais wow, c'est lourd cette affaire-là. Il faut choisir entre Dieu et l'amour de sa vie. C'est quoi ça? Et honnêtement, c'est venu me troubler. Puis je pense qu'Élisabeth a bien répondu à ça lorsqu'elle a bien exprimé ce qu'elle vivait lorsqu'elle a dit, un petit peu plus loin dans son témoignage, elle a dit, j'avais choisi de prioriser une relation terrestre plutôt qu'une relation avec celui qui allait être mon sauveur. Et donc, le premier élément que je voudrais souligner ce matin, c'est, je le résume comme ça, c'est une question de priorité. C'est une question de décider quelle relation je vais mettre au centre de ma vie. Qu'est-ce qui va être vraiment au centre de ma vie? Et dans un sens, si j'ai bien compris ce que tu es en train de dire, Élisabeth, elle réalisait qu'elle voudrait passer sa vie avec une personne qui mettrait Dieu en priorité aussi dans sa vie. Parce qu'à quelque part, elle réalisait que dans sa propre vie, une personne qui est faillible, qui est imparfaite, qui n'est pas Dieu, on s'entend, était venue prendre la place de Dieu dans sa vie. Et c'était une question de remettre les priorités aux bonnes places, et c'est ça qu'elle était en train de vivre à ce moment-là. Et je le résumerai comme ça. Tout est une question de priorité. Choisir de placer Dieu en priorité, je vais le dire comme ça, juste pour prendre une image. C'est comme avoir le soleil au centre de notre système planétaire. Choisir de placer Dieu en priorité au centre de notre vie, c'est comme avoir le soleil au centre de notre système planétaire. Quand notre relation avec Dieu est en priorité, elle vient éclairer tout le reste. Et c'est John Piper qui avait pris cette image-là où je l'ai lu pour la première fois, mais vraiment cette idée que lorsque Dieu vient dans notre vie et qu'on lui accorde la première place dans notre vie, c'est comme si tout trouve son équilibre. Et je sais que c'est peut-être pas votre expérience, vous avez côtoyé des chrétiens et vous dites non. Quand Dieu rentre, c'est comme non. Ça met tout à l'envers, je peux te le dire. C'est pas l'équilibre. Non, je vous le dis, c'est vraiment l'idée, cette image est tellement puissante de dire, c'est comme de laisser le soleil au centre de notre système planétaire. Et les autres éléments qui sont là, qui sont merveilleux, qui sont extraordinaires, qui sont beaux, viennent trouver leur juste place là-dedans, là où c'est inversé lorsque c'est pas le cas. Et je sais, et c'est peut-être votre expérience à vous, je sais que lorsqu'une personne découvre Dieu, lorsque Dieu entre dans la vie d'un individu, il arrive, peut-être que c'est votre expérience avec des chrétiens, il arrive qu'on a l'impression que tout devient bouleversé et qu'ils ne voient plus que Dieu dans leur soupe. Ça a été mon expérience à moi, d'accord? Quand Dieu est venu dans ma vie, honnêtement, je pense que les gens autour de moi, les amis autour de moi me regardaient et ils disaient, Yannick, qu'est-ce qui arrive avec toi là? T'es comme plus là, mon homme, là. La meilleure illustration que je peux vous donner, c'est comme tomber en amour. Ceux d'entre vous, la majorité d'entre vous, vous avez vécu comme le premier grand amour qui vient comme tout bouleverser dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mais les gens autour de toi disent, t'es où là? Qu'est-ce qui arrive là? Mais c'est un petit peu la même chose. C'est comme tomber en amour et il y a cette personne-là qui est là, qui est au centre de ton univers et tout semble graviter autour de cette personne-là. Et donc, ça peut donner l'impression à des gens qui sont témoins de ça, qui assistent à ça, de dire, ouais, mais attends un peu, là, il est comme viré capoté. Son univers est devenu bouleversé. Et je comprends ça. Je pense que les gens qui m'ont vu, moi, voir, lorsque Dieu est entré dans ma vie, ont pu exactement voir tirer cette conclusion-là. Mais en même temps, je reviens avec mon illustration. C'est pas parce que pendant un moment, je suis comme complètement ailleurs, dans les vapes, parce que je suis tombé en amour, que tout d'un coup, je vais dire au soleil, garde, dégage de mon système planétaire. Je vais enlever le soleil de là. Non, le soleil est à sa place. Le soleil est à sa place et c'est simplement qu'il y a des choses qui sont en train de tomber dans l'ordre où il devrait être. C'est ma perspective qui change. Cette semaine, on entendait des nouvelles de Chris Hadfield. Vous avez entendu parler de lui. Certains d'entre vous l'ont suivi. Je suis certain que Jessica a suivi Chris Hadfield lorsqu'il était dans l'espace et qu'il nous envoyait des vidéos absolument incroyables. Et il était là, il prenait des photos de la Terre, envoyait des vidéos et puis il nous montrait simplement sa perspective à lui. Et il y avait une autre perspective, d'accord? Il était ailleurs. Et j'aimerais ça vous lire une... Je connais pas la foi de ce monsieur-là vraiment. Il est assez discret sur sa foi, mais quand même, il a dit quelque chose d'intéressant. Je vais vous le lire en français, d'accord? C'est une traduction libre. On l'affiche en anglais. Ceux qui sont bilingues, vous pouvez le lire en anglais, d'accord? Mais voici ce qu'il a dit alors qu'il était là et qu'il regardait la Terre, les réflexions qu'il a eues en lui-même. Il a dit, quand on est dans l'espace comme ça, on est dans une position pour réaliser que la Terre est un bijou extrêmement rare et précieux au milieu d'un énorme vide apparent. Comment pouvez-vous regarder tout ça et ne pas vous demander comment tout cela a-t-il pu exister? Est-il venu à exister? Est-ce que c'était par pure chance ou est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui avait pensé à tout cela? Je ne connais pas sa foi. Mais avec une autre perspective, il regardait les choses puis il disait, finalement, la Terre, c'est merveilleux, mais c'est une petite place dans cet univers-là. Il y a quelque chose derrière tout ça, probablement. Un créateur, un designer qui était derrière tout cela. Et c'est un peu ça qui se passe lorsque Dieu entre dans la vie d'un individu. C'est une question de priorité qui change parce que tu réalises que les hommes seront des hommes, les êtres humains seront des êtres humains. On poursuit tous des choses dans la vie. Il y en a qui poursuivent la carrière, il y en a qui poursuivent l'amour. On essaie de poursuivre toutes ces choses-là en même temps, la santé, le succès, n'importe quoi. Et puis, à un certain moment donné, tu goûtes à tout ça, même si en soi, elles sont souvent extrêmement bonnes. J'aimais ça, Elisabeth a pris le temps de dire, regarde, d'aimer Rodrigo, ça a fait que j'ai arrêté d'essayer de plaire à tout le monde. Et déjà, il y avait une espèce d'équilibre qui est en train d'arriver là. Mais est-ce que ça veut dire que cet amour-là doit devenir le centre de ma vie? Et tout simplement, découvrir Dieu, laisser Dieu venir au centre de ma vie, en faire la priorité dans ma vie, vient placer les choses en ordre. Et cela va se répercuter après. Ça va avoir un impact sur les autres personnes autour de moi. Je vais essayer de l'illustrer comme ça, d'accord? Si on lit la Bible, peut-être que vous n'êtes pas très familier avec la Bible, mais on pourrait résumer tout ce que la Bible nous dit que Dieu attend des hommes à deux commandements. D'accord? Deux règles à suivre pour honorer toutes les Écritures. Le premier commandement, on va l'afficher ici en avant. Le premier commandement, on le trouve entre autres dans Matthieu 22. C'est Jésus qui parle et il dit, voici le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Première chose, Dieu au centre. D'accord? De tout ton cœur. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre qui vient supplanter la personne de Dieu dans cet univers-là qui est le mien. C'est Dieu qui est au centre. Premier commandement, je place Dieu au centre. Deuxième commandement, c'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est qui ton prochain, selon Jésus? Ton prochain, c'est toute personne que tu rencontres qui est dans le besoin. N'importe qui. Ta famille, tes proches, tes amis, tes voisins, n'importe quelle couleur, n'importe quelle religion, n'importe quelle situation, n'importe quel besoin, Dieu place des gens sur ton chemin qui sont dans le besoin, c'est ton prochain. Tu l'aimeras comme toi-même. Fait qu'en soi, si je prends juste ces deux règles-là, d'accord, je vous dis, ces deux règles-là résument tout ce que la Bible attend des hommes, tout ce que Dieu attend de nous. C'est pas méchant. Il me semble que c'est intéressant. Je place Dieu au centre, au lieu d'être en train de poursuivre quelque chose d'éphémère, comme les biens matériels, le succès, la gloire, l'amour, quoi que ce soit. Je place Dieu au centre, et une fois que j'ai placé Dieu au centre, je vais refléter ce nouvel équilibre-là dans ma vie, en aimant mon prochain comme moi-même. Encore une fois, c'est pas moi qui suis au centre de ma vie, ce sont les gens que je rencontre qui sont dans le besoin. Je vais les aimer comme je m'aime moi-même. C'est pas méchant. Mais voyez-vous, il y a un premier, un deuxième commandement, il y a une priorisation dans ce qui est au centre de ma vie. Et c'est le premier élément que j'aimerais qu'on puisse retenir ici de ces témoignages-là. C'est simplement que ces gens-là ont remis les choses en équilibre, ont replacé le soleil qui est Dieu au centre de leur univers. Et éventuellement, les personnes, les projets, les rêves, toutes choses autour viennent trouver leur place, leur juste équilibre dans ça. Maintenant, voyez-vous ce qui est extraordinaire avec Dieu? C'est que Dieu est au centre de cet univers-là, il est au centre de leur vie maintenant, il est au centre de l'univers, il est au centre de ma vie, au centre de la vie de centaines de personnes dans cette salle ici ce matin. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec Dieu, c'est que Dieu n'est pas là au centre de l'univers en disant « Aimez-moi! » C'est pas une espèce d'égo trip parce que Dieu dit « Je veux être au centre de cet univers-là, aimez-moi, j'ai besoin de ces acclamations-là. » C'est pas comme ça que ça se passe, ça serait plutôt une starlette d'Hollywood qui se shoot au fan club, qui a besoin d'admiration, qui vit lorsqu'elle embarque sur le stage, puis là, les gens applaudissent, ouais! Dieu est pas comme ça. Dieu est pas comme ça. Autrement, ça ferait de Dieu une espèce de junkie qui shoot à l'adoration, d'accord? Et ça, c'est vraiment de la projection qu'on fait parce qu'on imagine qu'est-ce que ce serait si moi je voulais être au centre de l'univers? Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est Dieu, Dieu est bon. Et Dieu dit simplement, écoute, si je suis Dieu, je dois être au centre. Et je vous dis, plus j'apprends à me connaître, plus je ne voudrais pas être au centre de l'univers. Vous ne voulez pas que je sois au centre de l'univers, vous voulez que ce soit Dieu, je vous le dis. Ma femme est d'accord avec moi, mes amis sont d'accord avec moi, mes enfants sont d'accord avec moi. Vous ne voulez pas Yannick au centre de l'univers, vous voulez Dieu au centre de l'univers. Et je ne voudrais pas être au centre de mon propre univers intérieur. Parce que ça aussi, ça amène toutes sortes de dérapages. Maintenant, Dieu n'est pas comme ça. Lorsque Dieu dit « Oui, vous devez m'aimer en premier », c'est que Dieu est Dieu, il est parfait, il est saint, il est amour. Et c'est lorsque je le garde au centre que les choses tombent en place. Maintenant, la plus belle preuve de l'amour de Dieu qui nous montre que c'est saint cette affaire-là, c'est pas détraqué, c'est pas une espèce d'être avec un ego énorme qui est là, qui va être au centre de l'univers et qui dit « Admirez-moi ». La plus belle preuve que j'ai dans les Écritures que ce n'est pas le cas, c'est que ce Dieu-là m'a aimé. La plus belle preuve se trouve dans l'histoire de Jésus. Et je ne sais pas si vous êtes familier avec l'histoire de Jésus. Si ce n'est pas le cas, je vous le dis. Je sais, on vit dans un air post-chrétien, vous avez peut-être jamais lu la Bible, vous avez peut-être juste vu Jésus de Montréal dans votre cours au cégep en philo, je ne sais pas quoi. Il faut absolument, je vous dis, il faut que vous preniez une Bible et que vous lisiez un des quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, juste ça dans la Bible, lisez simplement un des quatre évangiles, il faut que vous le lisiez. Parce que vous allez découvrir en lisant ça la plus belle histoire du monde. La plus belle histoire d'amour du monde. Roméo et Juliette, c'est pathétique à côté de ça, je vous le dis. Il faut que vous lisiez ça. Si vous n'avez pas une Bible, quand vous sortez d'ici, allez à la table, prenez un Nouveau Testament, prenez une Bible. S'ils n'en ont pas à vous donner, si vous dites qu'ils n'en ont pas, venez me voir, j'ai ma Bible juste là, je vous donne ma Bible, d'accord? Vous lisez un des quatre évangiles, vous allez découvrir la plus belle histoire d'amour. Vous allez tomber sur le dos. C'est tellement beau. En gros, cette histoire-là, je vais juste vous la résumer. Prenez le temps d'aller la lire cette semaine, aujourd'hui, quelques heures. Lisez l'Évangile de Marc, c'est le plus court. Vous allez avoir un synopsis bien résumé, ça va être génial. En gros, c'est quoi? Dieu. Dieu est venu sur la terre en prenant la forme d'un homme. Le Créateur, cet être invisible-là, s'est incarné. Il est venu marcher au milieu de nous dans la personne de son Fils. Dieu s'est fait homme, Jésus-Christ, c'est lui ça. Il est venu vers les hommes pour venir vers nous et pour nous sauver. Il est venu vers nous pour nous sauver. Et le cœur de cette histoire-là se passe dans ce que Christ, dans ce que Jésus-Christ a accompli lorsqu'il a été cloué sur cette croix-là. Les Écritures nous disent que c'est volontairement qu'il s'est rendu là. Il s'est laissé clouer au bois. Et au moment où il est livré, il est cloué au bois, il est crucifié, il est en train de racheter des âmes. Il est en train de s'offrir en sacrifice. Lui qui était au centre de l'univers est venu, il s'est fait un homme, il s'est humilié, on l'a rejeté, il a été cloué sur cette croix et il l'a fait pour s'offrir en sacrifice. Et il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Et je trouve dans cette histoire-là l'espoir pour moi de me réconcilier avec Dieu et de pouvoir inviter Dieu au centre de mon univers. Premier élément, en gros, je résumerai les témoignages qu'on a entendus ce matin dans cette idée-là. Mettre les priorités aux bonnes places et inviter Dieu à être au centre de mon univers. Deuxième élément, et c'est pour ça que je vous parle de Jésus. Le deuxième élément qui a rapport avec les baptêmes qui vont avoir lieu ici, avec plusieurs choses que vous avez entendues dans les témoignages, c'est l'identification d'un chrétien avec Jésus-Christ. Ce que les chrétiens font depuis des milliers d'années, au tout début de l'histoire de l'Église, si vous allez dans la Bible, vous allez voir les chrétiens se faisaient baptiser comme on va le faire ici. Bon, c'était comme plus pittoresque. Ils allaient souvent sur le bord d'une rivière, puis nous autres, on a comme une cuve. Nous autres, on fait ça dans un container, c'est pas du goudron, c'est juste de l'eau, d'accord? Maintenant, dès le début de l'histoire de l'Église, ce que les chrétiens faisaient, c'est qu'ils se faisaient baptiser comme ça par immersion. Mélina, tout à l'heure, dans son témoignage, vous a lu un verset. Je veux vous lire ce verset-là, d'accord? Elle a lu Galates 2:20, qui parle de cette identification du chrétien avec Jésus-Christ. Voici ce qu'on lit dans Galates 2:20, vous allez l'avoir affiché ici. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Je vis maintenant dans la chair. Si je vis maintenant dans la chair, si je vis humainement, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Faisant référence à cette croix, elle aurait pu lire d'autres passages. Colossiens 3:3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Romains 6:4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Tous ces passages-là parlent de l'identification qu'un chrétien fait par la foi avec ce que Christ a accompli. Voyez-vous, si on baptise les gens, peut-être vous avez déjà vu des baptêmes par aspersion. On va faire tomber quelques gouttes d'eau sur la tête de quelqu'un qui veut représenter le baptême aussi. Mais ce qu'on voit dans les Actes, c'est que ça se passait par immersion, d'accord? On les plongeait. Romains 6:4, je vais juste vous le relire avant d'expliquer. Romains 6:4 dit, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Dans quelques minutes, on va baptiser ces quatre personnes-là qui ont dit « Regarde, moi, librement, je veux m'identifier avec Jésus-Christ. » Et ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'il va y avoir Jean-Paul Gagné, le père de Mélina, qui va être là avec un des pasteurs de l'Église. Et sur la base de leur déclaration de foi à eux, ils vont être trempés complètement, immergés sous l'eau. On va les laisser là une heure ou deux environ. On va les ressortir quelques instants après. Mais pourquoi est-ce qu'on les immerge comme ça? Paul nous dit dans Romains 6 que ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont été baptisés en sa mort. Et donc, par ce geste-là, je suis en train de dire quelque chose d'important. Je suis en train de dire, Seigneur Jésus, lorsque tu as été cloué sur cette croix, ce sacrifice que tu as fait là, c'est pas simplement pour d'autres mondes. C'est pour moi personnellement que tu l'as fait. Lorsque tu t'es offert en sacrifice et que tu es mort sur cette croix, je prends cela pour moi-même, Seigneur, ce sacrifice-là. Et ensuite de ça, on va les sortir, évidemment. Et là, on est en train d'illustrer la résurrection de Jésus. Parce que la Bible nous dit qu'il est resté 3 jours mort et puis il est ressuscité d'entre les morts. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on veut être identifié nous-mêmes avec cette résurrection? C'est parce que nous croyons profondément que lorsque nous décidons de faire ce pas de foi, c'est vraiment un acte de foi qu'on fait. Lorsqu'on fait ce pas de foi de croire dans le sacrifice de Jésus et dans sa résurrection, nous croyons qu'une vie nouvelle jaillit en nous. Alors, les quatre personnes qui vont se faire baptiser tout à l'heure ont fait déjà un acte de foi personnellement. Vous l'avez tous entendu, il y a un moment dans leur vie où ils ont dit « Seigneur, j'ai besoin de m'identifier avec ta mort, avec ta résurrection. Par moi-même, j'arriverai pas à ramener Dieu au centre de ma vie. J'ai besoin que toi, tu viennes opérer cette réconciliation-là pour que Dieu vienne au centre de ma vie. Et par moi-même, j'arriverai pas non plus à marcher dans cette vie nouvelle-là. » Et je veux donc m'identifier avec ta mort et avec la puissance de ta résurrection aussi. Et c'est de ça dont ils vont rendre témoignage tout à l'heure. Je pourrais résumer le christianisme à ceci. Nous croyons que Dieu existe, qu'il est au centre de l'univers, et volontairement, librement, parce qu'à un certain moment donné, Dieu intervient dans notre vie, commence à nous parler, à parler à nos cœurs, à travers toutes sortes de circonstances. Volontairement, on invite Dieu à venir au centre de notre vie. Maintenant, réalisant que moi-même, je ne suis pas capable d'être comme Dieu puis de faire tout ce que Dieu me dit dans la Bible, je réalise que par moi-même, je n'arriverai pas à faire ça. Alors, j'entends le message de ce que Jésus est venu faire, cet acte d'amour-là. Ce Dieu qui va être au centre de ma vie, comme je l'ai dit, ce n'est pas un junkie qui shoot à l'adoration. C'est quelqu'un qui est venu sur la terre, qui s'est incarné, qui est venu mourir sur la croix pour moi. Et je choisis par la foi de m'identifier avec cette mort-là. Pour dire, Seigneur, ce sacrifice-là que tu as fait, je crois qu'il me lave, moi, de toutes mes fautes, de tous mes péchés. Et ta résurrection me rend capable, produit en moi une puissance de vie nouvelle en moi pour me transformer. Et c'est de cela dont ils rendent témoignage. C'est de cela dont moi je rends témoignage. Des centaines de personnes dans cette salle peuvent rendre témoignage qu'au moment où ils ont invité Dieu à venir au centre de leur vie, au moment où ils ont renoncé à eux-mêmes pour se confier dans la mort de Jésus, dans sa résurrection, qu'ils ont invité Jésus-Christ d'une manière mystérieuse, surnaturelle, à venir produire une vie nouvelle en eux, ils ont commencé à voir cette vie nouvelle-là qui a jailli en eux. De toutes sortes de manières, Rodrigo a dit, j'ai senti cette joie-là, cette paix-là qui venait en moi. C'est quoi sa prière? C'est simple. Viens me libérer de cette douleur-là, j'y arrive pas. Et il est en train de poursuivre Christ, il est en train de chercher Christ. Et puis, les choses sont tombées en place progressivement dans son esprit. Mais chacune de ces personnes, par son baptême, est en train de rendre témoignage qu'une vie nouvelle a commencé en eux. Une des choses que j'aime dans les témoignages, c'est que les gens nous disent comment Dieu, individuellement, personnellement, est venu et a commencé à cheminer, à les interpeller, à parler à leur cœur. Le christianisme, ce n'est pas une prédication qui vient de l'avant. Ça, c'est mon histoire à moi. Moi, je peux partir d'ici cet après-midi, je vais aller louer Jésus, je vais être un Jesus freak, vous n'aurez peut-être absolument rien compris, mais moi, je suis bien avec Jésus. Ça, c'est mon histoire à moi. Ce que j'aime lorsqu'on entend des témoignages, c'est qu'on est en train d'entendre comment Dieu travaille dans différentes vies, dans différents cœurs. Alors, je ne sais pas où est-ce que toi tu es. Où est-ce que toi t'es rendu là-dedans? Mais peut-être que depuis un certain temps, Dieu est en train de chuchoter à ton oreille. Il est en train de t'interpeller. Il est en train de t'appeler. Il est en train de dire, ta vie est déséquilibrée, tu poursuis toutes sortes de choses, mais c'est moi qui devrais être au centre de ta vie pour que les choses tombent à leur place. Et peut-être aussi qu'en lisant les Écritures, tu vois bien que tu n'y arriveras pas par toi-même. C'est au-dessus de tes forces d'être ce chrétien parfait. Il n'y en a pas de chrétien parfait, je vous le dis. Parce que chaque personne qui est devenue chrétienne à travers l'histoire de toute la foi, ce sont des personnes qui ont réalisé qu'ils n'arriveraient jamais par eux-mêmes à être parfaits. Et qui ont décidé justement de venir s'identifier avec Jésus-Christ, avec sa mort, pour dire, c'est ta mort qui est le sacrifice nécessaire pour le pardon de mes péchés, c'est ta résurrection qui est la puissance nécessaire pour que j'entre dans cette nouvelle vie. Et peut-être que le Saint-Esprit est en train de parler à ton cœur depuis un bon bout de temps. Tu l'entends chuchoter dans ton oreille, il te parle par des circonstances, il te parle par les Écritures. Moi, je t'invite à faire le saut. Quand je cherchais un titre pour la prédication, j'ai dit, le titre, ça va être « Vas-y, plonge ». Je pense que c'est sorti dans les témoignages que lorsque Dieu commence à nous attirer, lorsque Dieu commence à nous parler, il y a un moment où tu viens pris de vertige. Et il y a très peu de chrétiens, il y a très peu de gens qui en viennent à placer leur foi en Jésus-Christ, qui ne sont jamais pris de ce vertige-là. Ce moment où tu dis, OK, Dieu, je veux que tu rentres dans ma vie, je veux que tu viennes au centre de ma vie. Ça donne le vertige, ça. Mais voyez-vous, pour que Dieu vienne au centre, c'est un peu comme si je m'avançais dans l'océan. Je plongerai pas tant que je vais pas me lancer. Je me rappelle la première fois que j'ai sauté du plus haut tremplin à l'aréna Rosanne-Laflamme. Il y avait une piscine là, puis il y avait un tremplin, puis je me tenais avec une gang de sauveteurs, puis eux autres étaient tous habitués à faire ça, puis j'ai dit, OK, faut que je me lance là-dedans. Puis j'étais là, puis je me rappelle, c'était comme rendu en haut, je voulais juste m'asseoir, juste pour pouvoir prendre du béton, puis pas le laisser partir. Mais le sentiment de liberté, mes amis m'avaient dit, si tu veux vraiment que ce soit le fun, tu fais quelque chose. Tu lèves la tête vers le ciel, tu rouvres les yeux, puis tu te garoches par en avant. Tu regardes le plafond partir. Puis comme on était tard le soir, j'étais juste avec la gang de sauveteurs, je pouvais gueuler comme un débile mental. Fait que c'est ça que j'ai fait, oh, en sautant. Mais le sentiment de libération que j'ai eu à ce moment-là, il a fallu que je saute du tremplin, vous comprenez? Il a fallu que je plonge. Et c'est ça que ces gens-là vont faire tout à l'heure. Ils vont témoigner en étant immergés qu'ils ont fait ce saut-là. Ils se sont lancés dans ce vide-là qui est Dieu pour pouvoir l'inviter à venir au centre de leur vie. Tout à l'heure, j'ai parlé de Chris Hadfield. Il a rêvé depuis très, très longtemps dans sa vie d'aller dans l'espace, mais il me semble que le jour où tu dis, OK, là, tu t'en vas dans la fusée, tu lâches la Terre. Tu lâches ça, là. Puis tu décolles dans le grand vide. Faut que tu fasses un saut, tu fais un plongeon dans le vide, puis tu dis, oh boy, ils sont mieux d'être capables de me ramener parce que je suis comme pas chez nous de l'autre bord, là. Si Dieu t'appelle à faire ce saut-là, si Dieu t'appelle à plonger, à l'inviter à venir au centre de ta vie, à venir lui donner ton cœur en disant, Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu viennes au centre de ma vie parce que moi-même, je n'y arriverai pas. Fais-le ce choix-là. Aie le guts, le courage de faire la décision la plus belle que tu vas prendre dans ta vie. Ça va venir bouleverser ta vie. Les gens autour de toi vont dire, il est rendu fêlé, c'est un Jesus freak. Parce que tu vas tomber en amour. Et progressivement, avec les mois qui vont passer, tu vas réaliser que c'est comme si on avait remis le soleil au centre de ton système solaire. Et les choses commencent à tomber en place. Et une vie nouvelle va commencer à jaillir en toi. Je termine avec deux citations de Rodrigo. Quand j'ai lu ça, écoutez, je me suis mis à pleurer. Ça résume tellement bien ce que l'Esprit de Dieu vient produire en nous lorsqu'on croit en Jésus-Christ et que cette vie nouvelle-là commence en nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué lorsqu'il dit « J'ai vu en elle la femme que je m'efforçais de vouloir construire durant toutes ces années. » En seulement une journée, elle était devenue tout ce que je voulais qu'elle soit, et ce que j'avais voulu lui donner, elle l'avait trouvé en Dieu. Parce qu'à ce moment-là, dans les yeux d'Élisabeth, Rodrigo a vu cette vie, cette résurrection de Jésus-Christ en lui. À la fin de son témoignage, il a dit ceci, « Avec le temps, j'ai pu comprendre pourquoi Dieu avait fait tout cela, de cette façon-là. Je m'étais tellement construit une tour intérieure impénétrable que même Dieu ne pouvait y entrer. Il a fait entrer à la place une jeune femme pour ensuite la reprendre et me faire comprendre que j'ai besoin de lui dans ma vie pour ensuite nous reconstruire de nouveau, mais cette fois-ci avec lui comme pilier, avec Dieu au centre de sa vie. » J'aimerais prier pour vous, si vous permettez. J'aimerais prier pour nos quatre amis qui vont se faire baptiser ici et puis on va assister à ces beaux baptêmes-là. Éternel Dieu, tu es invisible. Tu es invisible, mais pour moi, ce matin, tu es visible, Seigneur. Parce que chaque fois que j'entends un témoignage de vie semblable, tu deviens extrêmement concret pour moi, Seigneur. Tout à fait visible pour moi, Seigneur. Et chaque fois, mon cœur est bouleversé, émerveillé de voir comment, Seigneur, dans ta grâce, tu peux intervenir dans une vie parce que chacune de ces vies cherchait à avancer sans toi, à te garder à quelque part dans une sphère, à quelque part dans leur système planétaire, un petit espace bien confortable, une ressource disponible aux besoins. Mais Seigneur, dans chacun de ces quatre témoignages, ce que j'ai entendu, c'est que tu es intervenu pour dire à Mélina, à Myriam, à Elisabeth, à Rodrigo, que ta place, la place qui te revenait, était au centre de leur vie, en priorité dans leur vie. Et Seigneur, tu es venu leur dire combien tu les aimes, combien tu n'es pas un être égoïste qui voudrait simplement soutirer de toutes ces créatures un maximum d'énergie. Mais au contraire, tu désirais entrer dans cette relation intime et profonde puisque tu es venu marcher au milieu de nous en t'incarnant, en devenant homme. Et tu t'es offert sur cette croix en sacrifice pour nos péchés afin qu'imparfaits nous sommes, nous puissions être réconciliés avec toi, Seigneur. Je te bénis pour cela. Seigneur, j'aimerais te prier pour chacune des personnes dans cette salle qui ont peut-être entendu cette histoire, la plus belle histoire du monde, l'histoire de Jésus-Christ depuis des centaines de fois, mais qui résistent à te laisser la place centrale dans leur vie, Seigneur, qui voudraient te garder en périphérie et qui essaient eux-mêmes de se placer au centre, ou un amour, ou une passion, ou un désir, ou une carrière, ou des rêves au centre, Seigneur. La vie m'a appris, comme elle l'a appris à des millions de chrétiens, la vie m'a appris que les choses ne vont pas bien tant que tu n'es pas au centre. Je te prie, Seigneur, pour ceux et celles ici ce matin qui résistent parce qu'ils ont le vertige, ils ont peur de faire ce saut, de se lancer dans ce vide pour pouvoir saisir ta personne, Seigneur. Goûter qui tu es, goûter ton amour, Seigneur. Dans ta grâce, approche-toi, Seigneur. Approche-toi d'eux. Viens, Seigneur, leur chuchoter à l'oreille, je t'en prie, que tu es là et que tu es prêt à sauter avec eux, que tu es prêt à les accueillir. Comme David l'a chanté, tu es prêt à les porter dans tes bras pour les conduire vers le ciel, Seigneur. Et que cette vie nouvelle viennent commencer à germer en eux pour faire d'eux, Seigneur, tout ce que tu veux faire d'eux. Non pas comme s'ils allaient disparaître, Seigneur, mais comme on a entendu Rodrigo le dire, ce qu'il a vu dans les yeux d'Élisabeth, c'est pas quelqu'un qui s'éteignait à cause de sa foi, mais c'est quelqu'un qui émergeait, qui rayonnait, qui brillait, parce qu'elle était enfin libre de t'avoir mis au centre de sa vie, Seigneur, toi qui es bon, toi qui es amour. Merci, Seigneur, pour ces témoignages. Merci d'être entré dans ma vie, dans la vie de centaines de personnes ici ce matin, Seigneur. Et merci pour ceux que tu es en train d'attirer à toi, Seigneur. Merci pour les prochaines personnes qui vont se faire baptiser dans les mois à venir. Merci, Seigneur, pour les décisions qui vont être prises. Merci pour les témoignages qu'on va entendre, Seigneur. J'ai tellement hâte. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.